Bonjour, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons pour une belle boucle à vélo en Europe avec trois jeunes voyageurs. Audin, Sinclair et Rodrigue sont tous les trois étudiants en école d'ingénieurs. En 2021, ils ont saisi l'opportunité de l'année de césure proposée par leur école. Et ils ont choisi de partir à la découverte de l'Europe à vélo. Ils avaient initialement prévu un voyage de 6 mois, mais les retards d'approvisionnement, notamment pour quelques pièces sur les vélos, les ont forcés à revoir leur itinéraire. Les petits princes à vélo, peut-être que vous les connaissez sous ce nom-là, se sont élancés début juin 2021 depuis Grenoble en direction de la Suisse, puis de l'Italie. Ils ont ensuite longé la côte Adriatique jusqu'en Albanie avant de prendre un ferry et de remonter toute l'Italie direction Grenoble. Les petits princes à vélo ont partagé tous leurs voyages, notamment via des vlogs sur YouTube, aussi sur Instagram et sur Facebook. Je ne sais pas si vous connaissiez ce projet avant cet épisode, mais moi j'ai adoré les suivre cet été et j'étais ravie de pouvoir discuter avec eux, notamment de la préparation de leur projet. Partir en voyage à vélo pendant une année de césure, ça ne s'improvise, mais alors pas du tout. Tout ça, les petits princes nous diront dans cet épisode. D'autre part, on a parlé de leur engagement auprès des écoles primaires, à qui ils ont présenté le projet. Et on a aussi abordé d'autres thèmes un peu plus voyage à vélo en pratique, comme leur cohabitation à trois à vélo pendant près de 70 jours, alors qu'ils n'avaient jamais fait de voyage à vélo auparavant. Et on a bien entendu parlé des beaux moments, des beaux paysages et des belles rencontres faites sur la route. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Audin, Sinclair et Rodrigue.
Bonjour.
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 Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Cyclotopo pour parler de votre beau voyage à vélo à travers l'Europe. Une première question tout d'abord. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs? Où vivez-vous? Que faites-vous dans la vie? Et depuis quand voyagez-vous à vélo?
Moi, c'est Audin. Je suis normand, originaire d'Normandie, de Caen. Et donc là, je vis sur Grenoble. On est tous les trois en école d'ingénieur sur Grenoble. Chacun dans une spécialité assez différente. On a voyagé à vélo, c'était la première fois pour nous trois en tout cas, cet été, pour un projet qu'on a mené ensemble, qu'on a préparé, puis qu'on a réalisé tous les trois.
Moi c'est Rodrigue, je viens de l'Île-de-France et on s'est rencontrés tous les trois à Grenoble, là, dans notre école d'ingénieur, et puis on a décidé tous les trois de faire une année de césure. Dans un premier temps, on a cherché à financer notre voyage et puis après, on a décidé de partir et c'était notre premier voyage à vélo. C'était mon premier voyage à vélo aussi.
Et donc pour finir, moi c'est Sinclair. Donc comme ils l'ont expliqué, étudiant à Grenoble en école d'ingénieur. Je viens de Lille à la base et puis voilà, réalisation de ce projet à trois. Et là, on va pouvoir reparler de ce projet, donc c'est très très cool.
En tout cas, moi, je suis très contente de pouvoir discuter avec vous de votre voyage à vélo. Donc, rien que pour ça, c'est top. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans votre tout premier voyage à vélo, du coup, parce que vous l'avez fait pendant votre année de césure, mais vous auriez pu faire tout autre chose.
Je pense que c'était vraiment, l'envie d'avoir un moyen de déplacement lent et non un moyen de déplacement rapide. Après, quelque chose de non polluant, pour nous, ça devient de plus en plus important. Et après, le vélo, moi, pour nous trois, je pense que c'est toujours un moyen de transport qu'on a beaucoup aimé, surtout à Grenoble, un peu la ville du vélo. Du coup, ce moyen de transport, c'est un peu opposé. On avait tous les trois envie de prendre notre temps et de réfléchir un peu plus sur ce qu'on voulait faire plus tard. Du coup, on a décidé de faire une année de césure qui a été très bien acceptée par notre administration et de l'école et de partir. On devait partir 6 mois après suite à des problèmes. On est parti 3 mois finalement.
En fait, pour nous, le but, c'était aussi de s'ouvrir pendant notre césure, de découvrir d'autres choses, d'autres personnes, de sortir un peu de la bulle dans laquelle on peut se mettre dans les études, cercle d'amis, tout ça. Pourquoi partir à vélo et pourquoi en Europe? Ça nous permettait en fait de montrer quelque chose qu'on considérait important, c'est-à-dire qu'on peut être dépaysé en Europe par des choses qui sont et des gens qui sont à côté de chez nous. Et ça, c'était très important pour nous. Et donc, en combinant ce qu'a dit Rodrigue et notre envie de partir tout en restant relativement proche, c'est le vélo s'est un peu imposé, entre guillemets, hein, pas dans le terme négatif, mais il s'est imposé comme le meilleur choix, quoi, comme la chose la plus logique à faire.
Et est-ce que vous faisiez du vélo avant ce premier voyage, soit pour vous déplacer, soit, je sais pas, peut-être en compétition ou autre?
Moi, c'était vraiment vélo taf, du coup, tous les jours pour aller soit à l'école, voir les amis, c'est vélo tout le temps.
Ok.
Pareil que Rodrigue, pour moi, depuis que je suis petit, j'utilise le vélo pour me déplacer. J'allais au collège, lycée en vélo. Et voilà, et enfin, j'ai continué. Mais j'avais jamais fait de grandes distances. J'en faisais régulièrement, j'en faisais tous les jours en fait, mais jamais sur des très grandes distances.
Du coup, moi, c'est tout pareil. Vélo taf, vélo pour aller à l'école, pour aller au travail, mais aussi du vélo en loisir pour le sport, un peu de cyclisme et de VTT.
D'accord. Et justement, on va revenir sur votre grand voyage. Donc en 2021, vous avez, comme vous nous l'avez dit, décidé de profiter de votre année de césure pour vous lancer à la découverte de l'Europe à vélo. On va voir que c'est plutôt le sud de l'Europe. Ça, on y reviendra juste après. Je suppose qu'il y a des plans qui ont dû changer aussi au fur et à mesure de l'année 2021. Est-ce que vous aviez un itinéraire prévisionnel, on va dire, au tout début de votre projet?
Alors, au tout début du projet, on avait un itinéraire prévisionnel. C'était une boucle, du coup, en Europe. On partait un peu, on va dire, on partait de Grenoble, on tirait vers l'est jusqu'à Budapest. Après, on remonte dans les grandes lignes. On devait remonter jusqu'à Berlin, après Amsterdam et redescendre sur Paris. Donc, c'était vraiment une grande boucle en Europe. Sans trajet vraiment défini, on voulait vraiment se laisser cette liberté-là, de choisir un peu le trajet au jour le jour, au moins à la semaine avant, pour garder vraiment. On voulait pas se mettre de barrières et un trajet, ça aurait imposé des limites. Et on voulait vraiment rester libre et vraiment profiter à fond de la liberté que peut offrir le vélo. Et donc oui, finalement, on a opté pour un trajet différent parce que avec l'épidémie de Covid-19. On avait moins de temps et certains pays étaient fermés, donc on s'est tourné vers les pays de la mer Adriatique et les pays des Balkans.
D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu la préparation de votre voyage? Est-ce que vous aviez chacun des tâches attitrées, des domaines de spécialité? Comment vous avez fait pour le matériel, pour, je sais pas, pour l'organisation en règle générale?
Pour retracer un peu l'organisation, quand est-ce qu'est né le projet, on parle un peu de tout ça. La première idée, elle est née en novembre 2019. Donc c'était le moment où on devait choisir potentiellement d'aller partir en Erasmus, de choisir en fait une université partenaire avec notre école pour partir pendant un semestre. Donc tous nos amis regardaient un peu tout ça pour partir à d'autres endroits. Et puis donc au départ, c'était Rodrigue et moi. Nous, on a commencé à regarder et on est dans la même filière tous les deux et on a trouvé en fait aucune université qui nous intéressait scolairement au niveau des sujets abordés et qui correspondaient à notre filière. Mais on avait quand même envie en fait de s'ouvrir et de découvrir d'autres choses que juste notre école d'ingénieur. Et donc c'est là que la première idée est née de Rodrigue qui a dit bah, si on prenait un an pour travailler et puis voyager à vélo. Et donc ça c'était le tout début en novembre. Et après est venu le confinement, donc le tout premier en mars ou avril 2020. Et là, donc, moi, j'étais confiné avec Sinclair et on était en pleine préparation du dossier de césure pour notre école. Et puis, donc, on écrivait les grandes lignes du projet pour l'école. Et donc, là, comme j'étais confiné avec Sinclair, ça a commencé je pense qu'il parlera peut-être de ça, mais à tilter dans sa tête. Et puis, il s'est commencé à s'y intéresser, en fait. Et puis, il nous a rejoint à ce moment-là dans le projet.
Moi, je ressentais un peu les mêmes choses qu'Ona et Rodrigue sur ce point-là. Dans ma filière, j'étais un peu je sais pas exactement ce que je veux faire. Je voulais un peu mûrir. Je sentais que j'avais besoin de mûrir un peu sur plusieurs points. Et j'avais aussi envie de bouger. Du coup, je réfléchissais. J'étais déjà en train de chercher l'aspect professionnel, on va dire, pour la césure. Et quand ils m'ont présenté leur projet, je trouvais ça top. Et du coup, ça a pas mis longtemps. Pour que je me dise, ça serait quand même sympa. Et donc voilà, et donc je me suis lancé avec eux dans ce projet. C'était incroyable.
Du coup, on a créé une structure associative
D'accord.
et on s'est un peu réparti les tâches. Par exemple, Audin, il a agi du coup sur l'ouverture du compte en banque et aussi sur les opérations du coup qu'on a pu faire auprès des jeunes écoles primaires. Et puis après, nous, on a essayé de faire un peu le matériel et aussi beaucoup les subventions des différents départements qu'on a pu obtenir et qui nous ont aidés à réaliser ce voyage.
Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous y êtes pris pour avoir des partenariats et des subventions dans les grandes lignes?
quand on a écrit les grandes lignes du projet pour l'école, donc l'école demande vraiment quelque chose de carré, de cadré. Donc c'est pour ça qu'on a créé un projet pas seulement personnel, mais aussi extra-personnel de partage, de communication et envers les enfants. Ouais. Et à partir de ce moment-là où le projet était plus que, enfin, vraiment extra-personnel, on s'est dit, bah, pourquoi pas, comme on a une certaine ampleur, demander des subventions. Donc ces subventions-là, on a créé un dossier de subvention qu'on a présenté notamment aux collectivités. Donc j'entends par là les villes, communautés de communes, départements, régions. Selon les régions en France, ça c'est vraiment des choses qui dépendent des régions, mais il y a différentes aides attribuées aux jeunes en fait. C'est des aides surtout pour les jeunes qui sont du coup pour le développement de la région. Donc quand on parle des mots qui, enfin des choses qui les intéressent beaucoup, c'est quand on parle d'Europe, de développement durable, d'éducation, de pédagogie, ils aiment beaucoup ça. Mais c'est aussi donc c'est à la fois pour le partage et pour qu'il y ait une retombée au niveau du territoire, mais c'est aussi pour le développement personnel, c'est-à-dire que ces collectivités-là, elles vont aussi encourager les jeunes de leur région à se développer personnellement pour ajouter, par exemple, des lignes sur leur CV ou pour leur avenir professionnel. Il y a un peu toutes ces choses-là qui entrent en jeu auprès des collectivités. Donc après, une fois que le dossier est fait, c'est des présentations, faut envoyer des mails, faut se positionner sur les plateformes et mettre tout ça en place.
C'est super intéressant ce que tu décris. Ça a dû vous apprendre pas mal de connaissances en communication et de savoir-faire aussi, je suppose.
Rodin nous a beaucoup aidé au début. Du coup, lui était responsable communication dans notre école. Du coup, il connaissait déjà pas mal de ficelles et ça nous a vraiment beaucoup dépanné.
Ah oui, mais faut avoir Rodin dans son projet. Alors du coup, c'est ça.
C'est l'idée. On est là-dessus. Hein.
Bon, vous êtes chanceux alors du coup. Bon, une fois les comptes en banque ouverts, une fois les subventions reçues, est-ce que vous vous étiez fixé un budget quotidien par exemple ?
Je crois qu'on s'était fixé 9 euros par jour par personne, c'est ça ?
Ouais.
Si je ne me trompe pas. Bon, et en fait, comme le voyage s'est raccourci et qu'on était un peu dans l'euphorie du voyage, ça, c'est vrai qu'on c'était un petit peu plus. Enfin, on se faisait quand même plaisir parce qu'on se disait qu'on avait quand même vraiment les mois de travail qu'on avait passé au début de l'année, c'était un peu pour ça aussi et qu'on voulait profiter. Donc on s'est rendu compte que si on le voulait, on pouvait vraiment vraiment diminuer le coût de la vie chaque jour. C'était vraiment vraiment faisable, mais on n'a pas tenu exactement le budget. On était quand même un peu au-dessus.
En fait, on a dû, encore une fois, au niveau du cadre de l'école, donc on est quand même assez cadré. Avant de partir, on a une césure, faut qu'on dépose, faut qu'on budgétise, en fait. Donc, on avait tout un tableur de budgétisation du projet pour montrer, combien on allait dépenser et combien on allait gagner avant, faire les comptes sur comment on allait trouver notre argent pour être sûr que le projet puisse se réaliser. Donc, c'est pour ça que tout ça a été budgétisé. Et puis, comme dit Sinclair, on avait prévu de partir 5 mois. Finalement, on est parti que 2 mois et demi, donc on avait plus d'argent pour vivre tous les jours. Et donc, je voulais aussi préciser, dans les 9 euros par jour, on compte pas le matériel. On est vraiment sur hébergement et nourriture. Enfin, sur nourriture. 9 euros par jour, c'était la nourriture. Donc, non, on compte pas l'hébergement.
Je pense que c'était un peu implicite. Et puis, du coup, on va revenir sur le matériel. J'ai vu que vous aviez acheté des très beaux vélos pour ce voyage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Nous les présenter.
Alors du coup, c'est Historbike, c'est une marque française qui est basée à Clermont-Ferrand, qui fabrique et assemble ses vélos en France. Eux, vraiment, leur cœur de métier, du coup, la structure de cadre. Après, pour tout ce qui est mécanique à l'intérieur, ça va être du Shimano.
D'accord.
En soi, ce qui est plutôt très logique. C'est un très, très joli vélo qui est, du coup, on a vraiment une bonne posture. Faire des voyages de 15 000, 20 000 km, c'est des trucs qui sont assez robustes et à la fois pas si lourd que ça quand même, ça pèse 14 kilos, ça va. Et nous, on a beaucoup, moi j'ai beaucoup aimé l'ergonomie, même comment il est designé, c'est pas trop tape à l'œil ni trop voyeur. Après du coup, on avait tous les trois les mêmes, ça faisait un peu redondant, mais c'est
le choix de ces vélos-là, comme on devait partir 5 à 6 mois, on s'est dit on veut pas de problème avec nos vélos. Comme on travaille avant, on pouvait se le permettre d'acheter des vélos comme cela. Et on s'est dit, on prend des vélos confortables et robustes pour être sûr de ne pas avoir ce souci-là qui nous trotte dans la tête pendant le voyage. C'est vrai que si dès le début, on savait qu'on partait 2 mois, peut-être qu'on n'aurait pas investi autant.
Ouais.
Mais voilà, pour un voyage de 5 mois, on s'est dit, bon, on prend des beaux vélos comme ça. Vraiment, c'est un souci en moins pendant le voyage et on est confortable, on est sécurisé et on se sent à l'aise.
En tout cas, j'ai entendu que du bien sur ce vélo. J'avais dans un précédent épisode François, du coup, qui voyage en Afrique, que vous connaissez sans doute.
C'est incroyable ce qu'il fait.
C'est incroyable ce qu'il fait et qui me disait que après, je crois que quand on a enregistré, il était à 25 000 km avec le vélo. Ouais. Là, il doit être à beaucoup plus maintenant, mais qu'il était toujours aussi content de son vélo histoire bike. Donc.
Non, honnêtement, ils sont vraiment top. Hein. C'est des super vélos et. Et je pense qu'on peut aujourd'hui, après le voyage à vélo, on peut les recommander, honnêtement. Ils tiennent vraiment bien. Et puis, je tiens à dire qu'ils ont été super réactifs parce qu'on a eu un petit problème sur les vélos qui, pour le coup, est pas de leur fait. C'était une pièce Shimano qui posait problème sur mon vélo, en l'occurrence, la manivelle. C'est ce qui fait plaisir aussi, c'est de pouvoir être avec des gens qui sont pas, on va dire, des gigantesques boîtes, des gigantesques structures où c'est dur d'avoir un contact un peu humain qui sorte un peu des process. Et ça, c'était cool aussi. Je pense que ça, c'est assez important pour être mentionné.
Ouais, je comprends. Et non, ça commence à s'imposer comme une belle marque pour les voyages à vélo. Donc c'est chouette, ça change un peu des faras de manufacture.
C'est ça, c'est ça.
Vous me disiez que vous aviez eu des petits problèmes d'approvisionnement sur les vélos. Est-ce que c'est ça qui vous a fait décaler votre date de départ, du coup?
En grande partie, oui.
Ouais.
En fait, nos vélos devaient arriver début mars, si je ne dis pas de bêtises dans les dates, c'était début mars. Et on était censé partir le 15. Et en fait, bah, ça a été en plein. Donc il y avait les problèmes, effectivement, de fabrication des pièces qui compliquaient les choses. Et en plus de ça, il y a eu le problème avec les transports par cargo, l'Evergreen.
D'accord.
Donc ça a pas aidé. Ça a clairement pas aidé. On savait que nos pièces étaient dans les bateaux, mais on savait qu'elles étaient bloquées. Donc voilà. Et donc ça, c'était vraiment beaucoup beaucoup de frustration. En soi, ça a pas, c'était pas quelque chose de difficile à gérer parce que tout ce qu'on avait à faire, c'était d'attendre. En soi, mais c'est extrêmement frustrant. C'est assez déprimant, honnêtement. Parce qu'on voit un projet pour lequel on a voilà vraiment vraiment enfin qu'on a vraiment monté ensemble et qu'on a vraiment envie de réaliser et puis là on le voit un peu partir en fumée. C'est chaque jour qui passe, tu te dis que c'est un jour de moins à vélo, un jour de moins en voyage, ça déprime un peu, mais au final on a quand même pu partir et on est très heureux de ça.
Ouais, je comprends tout à fait. Quand j'avais vu la publication sur votre page Facebook comme quoi vos vélos étaient retardés, c'est vrai que c'est un peu triste. En plus, vous n'avez pas, comme vous êtes étudiant, vous n'avez pas la flexibilité de pouvoir allonger par la suite le voyage, vu que je suppose qu'il faut reprendre des cours à un moment donné quand même.
Quand même.
Quand même. Donc, non, je comprends que ce soit super frustrant, mais bon, vous avez des vélos, maintenant vous pouvez faire plein de beaux voyages à vélo par la suite. J'aimerais juste qu'on parle un petit peu des écoles dans lesquelles vous avez présenté votre projet. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce qu'on n'en a jamais parlé dans les autres épisodes. Je ne sais pas, c'est les écoles qui sont venues vers vous, c'est vous qui avez contacté les écoles. Quel type d'échange vous avez mis en place avec les différents élèves?
C'est nous qui sommes allés vers les écoles.
Ouais.
C'était des échanges par mail, par téléphone, pour réussir à contacter les écoles. Donc il y a eu deux écoles plus un centre aéré. Une école, c'était une connaissance, clairement c'était quelqu'un que je connaissais qui m'a permis d'intervenir dans l'école, mais l'école était très ouverte au passage. Et puis l'autre école, c'était voilà par téléphone, j'ai réussi à les contacter, puis après donc des rendez-vous pour aller les voir. Et comment ça s'est passé concrètement? On avait préparé une présentation pour présenter le projet aux enfants. Donc on faisait des interventions dans les classes, donc une partie un peu, on va dire, c'est un grand mot, mais magistral, où avec des diapos, on présente le projet, donc très synthétiquement, parce que voilà, les présentations, on les a faites à la fois devant des maternelles comme devant bah,
Ouais.
Les plus âgés étaient en cycle 2, enfin en CM2, quoi. Et donc, très synthétiquement, donc on parle du. Et les sujets abordés, en fait, c'était parler de mobilité, exprimer hein, le coût carbone, sans parler vraiment comme ça, mais du déplacement. Montrer que, bah, se déplacer, ça a un certain coût derrière, il faut faire attention. Parler d'Europe, beaucoup. Montrer que bah, la France, c'est en partie, ça fait partie de l'Europe et qu'il y a des choses à voir autour de nous. Parler beaucoup pratique aussi avec les enfants, parce que c'est ce qui les intéresse, comment on va vivre, comment on fait pour tout faire à vélo. Montrer ce qu'on a dans nos sacoches, parce qu'en fait, on a toute notre maison rangée dans quatre petits sacs, quoi. Et tout ça. Donc ça, c'était vraiment la partie présentation. Puis ils étaient très curieux, ils avaient beaucoup de questions. Et derrière, qu'est-ce qui intéressait beaucoup les professeurs aussi, c'était de, ça leur permettait de, ça leur fournissait un support pédagogique pour travailler plein de choses et ça intéressait les enfants. Typiquement, ils regardaient la distance qu'on faisait tous les jours, en combien de temps, puis les enfants calculaient la vitesse.
D'accord.
Ou sinon, ils regardaient la carte, donc notre Polar Steps, et puis du coup, ils travaillaient la géographie, ou ils regardaient nos vidéos aussi, puis ils faisaient un peu d'histoire sur les endroits qu'on visitait, enfin, ou ils faisaient des exposés sur les endroits qu'on visitait. Et donc, toutes ces choses-là, c'est un support pédagogique que les instituts ont adoré, parce que les enfants étaient super motivés pour travailler là-dessus.
C'est vrai que ça doit être super intéressant de pouvoir vous suivre au jour le jour et de faire un point sur votre avancée du voyage au jour le jour. Bon, après, c'est un peu tombé dans les vacances scolaires, je suppose, mais...
Ouais, c'est ça. Donc, on a commencé tout le mois de juin avec eux, on a discuté et on échangeait par mail aussi. Ils regardaient les vidéos, puis on échangeait par mail, ils réagissaient, ils nous posaient des questions. Et c'est vrai qu'après, c'est tombé en plein pendant les vacances scolaires, mais ils ont quand même suivi, du coup, ils étaient intéressés. Donc, il y en a pas mal qui ont suivi chez eux.
D'accord.
Le projet, il y en a quelques-uns qui ont voyagé à vélo ou qui sont mis à, qui ont appris à faire du vélo aussi grâce à nous.
Et,
parce qu'en fait, je vais retourner les voir en septembre, là, juste à la rentrée. Et ils ont dit, ah, j'ai appris à faire du vélo grâce à vous, merci. Et puis, ils avaient plein de questions parce qu'ils avaient pu suivre pendant les vacances avec, dans leur famille respective, le trajet et l'aventure.
Ah, oh, c'est super. Ça vous fait un super lien, en tout cas, avec les différentes écoles et avec les différents élèves. Du coup, on a parlé de préparatifs. On va peut-être parler du voyage quand même, maintenant. début juin 2021, vous êtes partis tous les trois de Grenoble pour votre tour d'Europe à vélo. Est-ce que vous pouvez me raconter votre départ? Est-ce que vous appréhendiez ou est-ce que vous aviez hâte de partir? Je pense que vous aviez hâte, mais...
il semblerait que cette question ait été faite pour moi. On avait très hâte. On était trop heureux, un peu euphoriques, quand on a pris le train, parce qu'on a dû prendre le train de Paris avec nos vélos. Nos vélos sont arrivés à Caen. Audin et Rodrigue les ont descendus à Paris. Je les ai rejoints à Paris et puis on a descendu tout ça de Paris à Grenoble. On a logé donc chez des amis à ce moment-là, juste avant de partir. Donc on était trop heureux de partir. On les a sortis une fois la veille du départ avec des amis pour aller faire un peu pour grimper un peu sur les hauteurs de Grenoble tout ça. Le lendemain on est parti. On a fait très exactement, je crois que c'est 300 mètres et
non.
Et si littéralement hein. La manivelle de mon vélo a cassé. Donc je crois qu'à ce moment-là on ne comprenait pas trop ce qui était en train de se passer. On n'arrivait pas trop à réaliser. Donc voilà. Donc on était un peu, donc on était mi-énervé, mi-déprimé, mi... On savait pas trop quoi. C'était un peu bizarre. Donc on a réglé le problème le plus vite possible en appelant tous les magasins de vélos de Grenoble. Et du coup voilà. Donc on a enfin pu partir le mardi. C'était un espèce de faux départ un peu bizarre. Donc mais par contre, maintenant on en rigole et puis trop heureux quand on a pu partir. Quand on a enfin pu partir. C'était vraiment un plaisir, mais j'avoue que sur le coup, un peu bizarre, quoi.
Vous avez pas eu de chance, hein, quand même.
C'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Après deux mois à galérer à voir les vélos, même nos amis nous disaient, mais on pensait que vous alliez jamais partir, quoi, parce que toutes les deux semaines, on disait, on part dans deux semaines, puis à chaque fois, c'était retardé de deux semaines, et on n'avait jamais de date, quoi. C'était vraiment, et puis au moins, on peut partir, on casse une manivelle, quoi. Donc c'était vraiment assez incroyable.
Tu m'étonnes.
Et du coup, plus sur le départ lui-même, au-delà de la casse mécanique, je pense qu'on avait vraiment hâte de partir, mais on avait une appréhension, quoi. C'est les deux, parce que, on partait, on sait pas où, on sait pas où, on sait pas comment on allait dormir, on sait pas comment ça allait se passer, on sait pas si on allait réussir à vivre à trois pendant plus de deux mois.
Ouais, je comprends bien, parce que du coup, vous aviez préparé le projet pendant plus d'un an, voire plus, et en fait, vous n'aviez jamais voyagé tous les trois à vélo, ni tout seul à vélo, donc je comprends que ça fait beaucoup d'inconnus d'un coup.
En fait, il y a la théorie, il y a ce qu'on dit pendant les réunions où on se prépare, et puis il y a la pratique où on se dit, ok, il est 18h, on dort où? Et le premier soir, on se dit, où est-ce qu'on dort? Ok, là on va dormir là, mais il y a plein de gens, c'est à la vue de tout le monde, c'est bizarre. Et en fait, ça change très vite, ce paradigme-là change très vite, mais c'est vrai qu'au début ça fait un peu peur.
Et du coup, comment se sont passés vos premiers jours de voyage à vélo? Vous êtes monté vers la Suisse, il me semble.
Ouais, c'est ça. On a eu pas mal de mal à jauger notre capacité au physique au début, du moins beaucoup pour Sinclair et moi. Après, Audin, il était en meilleure forme que nous. Du coup ça allait, mais au début on avait un peu peur de de soit d'aller faire trop et d'être épuisé ou de pas faire assez non plus, du coup trouver le juste milieu, et on avait du mal à juger si on pouvait faire 50, 70 ou 80 km par jour. Et en plus, je me rappelle, on avait pas mal sous-estimé le problème de l'hébergement, et on se retrouvait pas mal à 17h à penser au logement du soir, du coup 13 à l'arrache quand même, mais bon, ça allait. Et puis finalement, du coup, dès le deuxième jour, on s'est fait un camping de gendarmerie, et du coup voilà, ça nous avait un peu rassurés.
Pas beaucoup de pluie pendant le voyage, mais celui-là, on s'en souvient, les routes faisaient un peu peur, quoi.
Ce que vous disiez sur le stress du logement, c'est qu'au départ, à 16h, on disait, ah bon, il fallait qu'on sache où on allait dormir. Puis au bout de 2 semaines, à 17h, on commençait à s'inquiéter. Au bout de 3 semaines, à 18h. Et puis à la fin du voyage, on arrivait à 22h dans une ville complètement claquée. Et puis on s'en fichait, quoi. On posait la tente, on dormait et on repartait le lendemain, quoi. C'était vraiment ça, quoi.
C'est pas la même, mais comme vous nous disiez au début, vous avez beaucoup appris rien qu'en 2 mois et demi de voyage, donc c'est chouette. Et du coup, niveau paysage, vous êtes parti par la Suisse, donc vous avez contourné le lac Léman par Lausanne, et après vous êtes descendu vers Sion.
C'est ça, oui, dans la vallée du Valais.
Est-ce que vous gardez du coup un souvenir en particulier de cette traversée des Alpes, du coup?
Moi, je dirais Genève. On a eu un accueil incroyable à Genève par un warm shower. Je pense qu'il faut vraiment le mentionner. C'était David qui nous a. Enfin, c'était notre premier warm shower. En fait, la journée où on ne pensait pas réussir à faire je crois, il y avait 90 km et 1000 mètres de dénivelé positif. Et c'était le tout début du voyage, du coup, on ne pensait pas réussir à le faire. Et puis, on s'est retrouvé à 19h à Genève et sans savoir où dormir, quoi, parce que finalement, on avait réussi. Et puis, on regarde le prix des auberges de jeunesse, c'est pas abordable. Les campings, pareil, c'est pas abordable, quoi, c'est les prix suisses. Et là, du coup, on s'y prend ce warm shower, mais beaucoup trop tard, quoi, le soir, enfin, la fin d'après-midi pour le soir même. Et là, on a été accueillis, mais comme des rois à Genève par David. C'était vraiment incroyable. Je pense que ça nous a vraiment marqué en Suisse.
Ouais, c'est une belle rencontre, en tout cas. Surtout au début du voyage, je pense que c'est encore plus beau quand c'est au début du voyage parce que tu t'y attends encore moins.
Là, pour le coup, là, on s'y attendait pas du tout. Hein. Vraiment, c'était surprise en
Oui.
surprise. Enfin, c'était vraiment incroyable.
Est-ce que vous suiviez un itinéraire est-ce que vous avez suivi des itinéraires sur votre voyage ou est-ce que vous guidiez, je sais pas, est-ce que vous faisiez votre itinéraire au jour le jour?
C'était la Via Rhôna au départ. Puis après, du coup, on a bifurqué sur. Donc ça me permet de monter tout le Valais. Puis après, on est descendu sur une qui descendait. C'était une autre Eurovélo, peut-être la 7, pour descendre sur Milan. Et après, on a pris le Eurovélo 8 en gros dans les grandes lignes pour descendre jusqu'en Albanie. Après, les Eurovélos, une fois en Croatie, c'est des bien grands mots, quoi. C'est très peu indiqué, il n'y a pas de piste cyclable en fait, de toute façon.
Même en Italie, hein. J'ai pas l'impression qu'on ait roulé un seul moment vraiment sur une Eurovélo.
Alors en Italie, c'est démarqué sur le site Eurovélo, c'est démarqué en cours de développement. Et c'est vrai que quand on voyageait à vélo, et c'était en travaux en fait. Ils étaient en train de créer les pistes cyclables pour de vrai, quand on voyait les travaux devant nous, quoi. Mais nous, on était sur la route.
Et du coup, ça fait quoi d'être voyageur à vélo en Italie? Est-ce que vous vous êtes vraiment senti dépaysé à partir de la Suisse ou en Italie ou après?
Déjà, on a passé les Alpes, on est arrivé en Italie, grand soleil, alors qu'il faisait moche en Suisse. Alors là, déjà, ça change tout. Là, après pizzeria, on découvre les pizzas à 6 euros, c'est génial aussi. Moi, ça me rappelle, mais quand j'avais vécu à Rome 3 mois pour un stage, ça m'a beaucoup rappelé de souvenirs là-bas.
Ouais.
Mais du coup, les lacs magnifiques, et puis un peu de problème de communication, mais on s'en sort toujours un peu avec les doigts ou un Google Traduction, on s'en sort toujours.
Et donc après, vous avez été jusqu'à Venise en Italie, donc vous avez traversé d'ouest en est.
Ouais, c'est ça. Donc autour de Milan, il y a pas mal de les pistes cyclables le long des canaux
D'accord.
d'irrigation qui sont super agréables. C'était super sympa. Et après, c'était au niveau pareil des canaux, au niveau des champs de. Il y avait différents champs. On passait de traverser l'agriculture. Et puis on arrivait par Padoue, on arrivait sur Venise. Et
D'accord.
donc Venise, on a passé 2 jours avant l'arrivée, la grosse afflux de touristes. Donc on a vraiment eu de la chance.
Et donc après, vers où êtes-vous allé?
Bah ensuite, on a traversé la côte slovène, enfin, donc la Slovénie.
D'accord.
On l'a vraiment que traversé, hein, ça nous a pris une journée, il y avait 30 km, je crois. Et donc on est arrivé en Croatie et on a fait toute la côte croate jusque Monténégro, puis Albanie et ensuite retour en Italie par bateau pour boucler la boucle. et revenir du coup retirer vers les Alpes et repasser en France. Mais voilà, donc après l'Italie, la Croatie.
On marchait beaucoup par objectif de ville. On se disait,
Ouais.
au début, on s'est dit Genève, après on s'est dit Venise, et on verra. Après on s'est dit Dubrovnik, et on verra. Et puis finalement, on a fait, bon, bah on a le temps, on va jusqu'à Tirana, et du coup, on a fait Tirana.
Et du coup, vous avez fait du coup la Croatie, le Monténégro et l'Albanie. Est-ce qu'il y a un pays que vous avez particulièrement préféré ou un qui vous a surpris, auquel vous ne vous attendiez pas? Vous pouvez m'en dire un chacun, hein, si vous voulez.
Je pense qu'on a tous le même, hein, mais...
Ouais, la grosse claque, je pense que c'est le Monténégro. On s'attendait pas à des paysages aussi incroyables et variés finalement, de jour en jour. On y a passé 5 jours, je crois, c'est tout. Mais à la fois paysage et puis l'ambiance, quoi. Donc on sortait de Croatie et la côte croate, qui est très touristique, avec des relations, bah, de... Enfin, on était des touristes et puis ils nous faisaient bien remarquer, quoi, sur la côte croate. Et on arrivait au Monténégro, donc on avait une mentalité un peu différente. Et puis, au détour de la baie de Kotor, on arrive, on rentre dans la baie et tout de suite, ça change complètement de paysage. Ça change aussi, bah, je sais pas si c'était que pour nous, mais ça change de climat aussi, plus ou moins, quoi, parce que c'est peut-être plus montagneux ou, enfin, il faisait beaucoup plus frais, parce qu'en Croatie, on souffrait plus ou moins quand on subissait un peu la chaleur, et à partir du Monténégro, ça allait beaucoup mieux. Et puis donc de jour en jour, on fait la baie de Kotor. Après le lendemain, on grimpe, et là on a une vue panoramique en grimpant sur le côté de la baie qui est incroyable. Et après on passe de l'autre côté, prêt pour aller en direction du val de Skadar ou Skadarska. Et là c'est un paysage complètement différent qui avait presque rien à voir et qui était tout aussi incroyable. Après peut-être les îles croates aussi. Ouais. Les îles croates étaient, je dirais Korčula, qui était vraiment vraiment joli. Tout était beau, mais Korčula était vraiment sympa et on a eu de la chance qu'il y avait personne dessus, qu'on était vraiment l'impression d'être tout seul. C'était vraiment top.
Ouais, alors que vous étiez en pleine saison touristique, je suppose. Enfin, notamment en Croatie.
Bah, je pense qu'on était un peu avant, quoi, parce que sur là, on nous disait attention sur les routes, il y aura des voitures, prenez pas la route littorale, passez plus dans les terres. Et finalement, enfin, si vous regardez un peu nos vidéos, il y a des routes où on est tout seul, quoi. Alors qu'on voit le drone qui nous filme et sur 5 km de route. Littoral magnifique, il y a nos 3 vélos et rien d'autre. C'est incroyable.
C'est vrai que pour avoir vu vos vidéos, ça donne envie, honnêtement. Je les ai un peu visionnées cet été pendant que nous, on était bloqués en France à travailler. C'est pas mal, hein. Et du coup, bah là, on est au Monténégro, en Albanie. Comment vous étiez presque à la moitié du voyage, je suppose?
Un peu plus que la moitié, je crois, parce que en fait, au final, c'est vrai que quand on est rentré, on s'est pas rendu compte à quel point on allait vite quand on avait un objectif entre guillemets. Parce qu'au moment où on s'est dit il faut qu'on soit rentré pour telle date, ou il faut que, bah là, c'est notre itinéraire de retour et qu'on n'était plus dans le, ok, bah on va tirer encore jusqu'à un pays et on va continuer à explorer. On faisait vraiment beaucoup de kilomètres et on a un peu mal jaugé. Enfin, ça aurait été pareil à n'importe quel moment, mais c'est vrai que du coup, on est rentré à une vitesse. Quand on a quitté l'Albanie, je crois qu'on a mis 2 semaines pour rentrer. Je suis pas sûr à vérifier, mais je crois qu'on a mis 2 semaines pour
Mais je
rentrer.
pense que c'est vraiment ce changement de mentalité qui s'est opéré du jour au lendemain quand on s'est dit c'est bon, on a notre trajet, on a notre itinéraire, faut qu'on rentre en France, on sait par quelle route on va passer. Et à partir de là, le voyage il a pris une autre tournure, c'est-à-dire qu'on vivait peut-être moins au jour le jour, enfin on avait peut-être moins envie de visiter. Après, c'est parce qu'on avait fait aussi beaucoup de choses et on revenait en Italie qu'on connaissait un petit peu. Et à partir de là, on roulait pour rouler, quoi. C'est vrai qu'on a vraiment changé d'un seul coup. Et on passait beaucoup plus de temps à rouler et moins de temps à visiter.
Après, on était vraiment sur la côte italienne. C'est pas la côte italienne, du coup, de la mer Adriatique. C'est extrêmement touristique et je pense qu'on a vraiment vu le changement de décor. C'est pas les eaux turquoises de Croatie. C'est un peu plus des eaux chargées. Et aussi, c'est énormément de grandes plages avec des transats et des parasols. Du coup, ça nous donnait et des grosses villes balnéaires. Ça nous donnait vraiment pas très envie de nous arrêter. Et après qu'on ait discuté avec des Italiens, ils nous avaient dit en fait là vous faites 100 km dans les terres et c'est génial, mais là ouais sur la côte c'est pas ouf.
Est-ce que vous aviez prévu de vous arrêter là en Albanie, enfin de ne pas descendre plus au sud, ou est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, oh ben mince, faut rentrer maintenant, faut retrouver un trajet de retour?
Bah c'était plus une discussion. On savait qu'à un moment il fallait rentrer quand même. On l'avait toujours un peu en tête malgré tout. Et en fait le truc c'était que bah on aurait pu tirer encore plus bas, mais on pensait qu'on allait manquer de temps à la fin, comme j'ai dit. Par exemple, enfin, ça a été un grand débat. Hein. Déjà, enfin, savoir si on tirait jusqu'à Tirana, si on allait, voilà, plus bas, ça a été, c'était des discussions, un grand débat. C'était pas non plus, mais c'était des discussions qu'on avait et on se posait la question. Et on a pris la décision de pas aller plus bas, même si je pense qu'on avait quand même envie d'aller, de continuer à explorer. On s'est dit, bah ouais, mais on risque d'avoir des problèmes entre guillemets niveau timing. Donc on n'était pas entre guillemets on n'était pas en mode oui bah c'est là on est vraiment il faut absolument qu'on parte parce qu'on va avoir des on va être bloqué mais on était plus en mode bon si on y va on risque d'être un peu ça risque d'être un peu tendu est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas bon bah allez on le fait pas il faut, à un moment faut prendre une décision aussi.
On avait des checkpoints en fait, c'est-à-dire qu'à un moment on allait devoir prendre un ferry pour traverser, et les ferries il n'y en a pas partout, donc en fait on avançait de checkpoint en checkpoint quoi. Donc au départ, ce qu'on disait Rodrigue tout à l'heure, on avait prévu d'aller jusqu'à Dubrovnik parce qu'on avait vraiment vendu la ville, puis après on s'est dit bon, est-ce qu'on va jusqu'à Bar au Monténégro pour faire Bar et aller après aller à Bari, ou est-ce qu'on tire jusqu'à Durres oh, c'est le jeu de mots barbarie entre
Trop
super.
jeu de mots
Et
exceptionnel, vraiment.
donc il y avait Dubrovnik-Bari, Bar-Bari si on va plus loin, ou Durres-Bari. Et donc finalement on a choisi Durres-Bari. Et si on descendait plus bas, je pense après Durres, il fallait qu'on descende, qu'on tire vraiment beaucoup plus bas, et on n'aurait peut-être pas eu le temps.
Vous me parliez de la prise de décision tous les trois. Comment, sur l'ensemble du voyage, vous avez géré la cohabitation à trois, vu qu'on disait tout à l'heure que vous n'aviez pas l'habitude de voyager à vélo? Comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé votre rythme?
On a trouvé le rythme assez rapidement, je trouve, au niveau le rythme quotidien. Donc au début, on savait pas trop comment faire les kilomètres, comme disait Rodrigue, mais on s'est mis d'accord assez rapidement sur un rythme de journée, je pense qu'il nous plaisait à tous les trois. Et au niveau des décisions, donc il faut réussir à discuter et à évoquer clairement nos souhaits, nos envies, nos puis ce qui nous plaît pas, quoi, pour réussir à vivre à trois. Plus dans la pratique, on avait deux tentes, deux places, et on tournait tous les jours. Question pratiquement comment on vivait. Donc on tournait, il y en a un qui dormait tout seul, donc lui il avait de la chance, il avait pas trop chaud. Et puis deux autres qui dormaient à deux. Et on tournait comme ça tous les jours. Ça c'est plus une pratique.
C'est un super bon conseil que tu donnes. En vrai, j'avais jamais entendu ça.
Ouais, bah ça a été un grand, ça a été notre grande discussion avant de partir. Est-ce qu'on prend une tente trois places, est-ce qu'on prend deux tentes deux places, ou est-ce qu'on prend une tente, enfin trois tentes une place? Et on s'est dit que ouais, la tente deux tentes deux places, c'était génial parce que bah ça permettait d'avoir quand même le côté un peu convivial, marrant du voyage de tu dors avec ton
Ouais.
pote en tente et en même temps tu peux avoir un espèce d'espace où tu peux te retrouver un peu tout seul et te dire voilà, je peux souffler un peu quoi, je peux reprendre un peu d'espace privé tout ça, donc c'était vraiment bien. Et puis pour la chaleur, pareil, c'était vraiment bien de pouvoir dormir tout seul, quoi.
J'ai bien compris que vous ne regrettiez pas les deux tentes, mais en vrai, c'est un super bon conseil. J'en avais jamais, je sais pas, j'avais jamais pensé à cette hypothèse.
C'est du compromis, quoi.
Donc du coup, vous avez remonté toute l'Italie du sud jusque vers le nord, et après vous avez repassé les Alpes pour retourner à Grenoble et boucler la boucle. Comment se sont passées les dernières étapes? On avait parlé des premières étapes, mais justement, comment se sont passées les dernières étapes? C'est la fin quand même d'un projet assez long et je suppose qu'il a demandé pas mal de motivation et de travail à mettre en place. Ça doit faire quelque chose quand même.
Il y avait un truc un peu particulier, c'est que bah, quand on est arrivé sur les deux dernières étapes, en fait, on a vu qu'il allait y avoir des gigantesques orages sur les cols qu'on devait passer, ce qui nous a grandement motivés à accélérer. Et c'est vrai que du coup, ça a été des journées, des grosses, grosses journées. Je pense qu'enfin, on n'en a jamais fait des aussi grosses. Enfin, c'est vraiment le moment où on a fait les plus grosses journées. Je crois que la dernière journée. Non, l'avant-dernière journée, pardon, au moment de passer en France, on a fait, Odin, tu me dis si je me trompe, hein, mais je crois qu'on a fait 2000 mètres de dénivelé positif et 120 bornes, je crois, un truc comme ça.
Ouais, on a monté, en gros, on est parti de Turin, on est monté, on a passé, on allait jusqu'à Briançon. Donc c'était ça, en fait, de Turin au col de Montgenèvre. Bah là, ça a monté en continu sur 80 bornes. Ouais, c'est
Ouais.
qu'on est les derniers jours, les derniers kilomètres, on les a fait, mais rincés, quoi. On s'est même pas arrêté, quoi. Le reste du voyage, quand il y a une grosse pluie, on s'arrête, mais là, on se dit, bon, il reste 30 km, on y va, on est rond. On est arrivé, on n'avait pas besoin de prendre de douche, quoi.
C'était la fin du voyage, donc je pense qu'il y avait un peu un côté de nous qui disait envie d'être à la maison, vu qu'elle est tout proche. Et l'autre côté, c'était est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter de pédaler? Est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter le voyage, parce que tu te rappelles tous les paysages que tu as vus, tout ça, tu te dis, ah bah, je vais plus les voir avant un moment, donc c'est, ouais, ça fait un peu bizarre. Je pense qu'on l'a tous vécu différemment, hein. C'est quelque chose, je pense, assez personnel, mais c'est vrai que moi, en tout cas, pour ma part, j'avais quand même vachement ce côté-là de un peu de dualité. Bah, j'ai quand même envie de rentrer parce que j'ai envie de manger autre chose que du riz, des pâtes. Enfin, j'ai envie de retrouver un lit, ça va être vraiment sympa et tout, revoir les copains aussi. Mais il y avait vraiment ce côté-là aussi de, bah, en fait, c'est la fin, quoi, du voyage. Est-ce que j'ai vraiment envie que ça s'arrête? Pas vraiment. J'ai quand même envie de, j'aimerais bien tirer encore plus, continuer à pédaler. C'était vraiment l'ambiance, c'était trop cool et tout. Donc, je pense que c'est vraiment, moi, ce qui a marqué la fin de mon voyage, c'est de la dualité entre ces deux trucs-là, quoi.
Et je pense, bah c'est encore une fois c'est personnel, mais ce qui nous donnait envie que ça soit fini, c'est parce que c'était la fin. C'est bête ce que je dis, mais quand on a su qu'il restait qu'une semaine, on était pressé que ce soit la fin de la semaine. Alors que ça faisait 2 mois qu'on voyageait, ça se trouve si on avait voyagé 5 mois, et bah on aurait voyagé pendant 4 mois et demi en étant super, enfin à fond dedans. Et puis les 2 dernières semaines, on aurait dit on a envie de rentrer, mais parce que c'est les 2 dernières semaines peut-être et qu'on sent la fin, qu'on a envie que ça soit fini.
Partage aussi l'avis de Dain sur ça.
Et justement, bah, comment s'est passé le retour à la vie sédentaire, entre guillemets, après 2 mois de voyage? Est-ce que c'est facile?
C'est un peu bizarre au début de revoir les gens. Bah, après, c'est toujours agréable, ça fait très plaisir de revoir tout. Moi, j'ai revu ma famille dès le début, c'était super sympa. Après, au niveau vraiment sportif, on a essayé de refaire un peu de sport régulièrement. Et moi, par exemple, j'ai énormément surveillé mon alimentation pour pas avoir une grosse prise de poids derrière. Ça me fait vraiment très peur. Du coup, ça va. Après, on n'a pas eu trop de reverse culture shock ou de autre chose. Ça va. On n'était pas non plus trop dépaysés. C'est les avantages de partir en Europe. Du coup, on n'avait pas trop. Ça, de la France ne manquait pas à ce point-là. Ça nous manquait les bons croissants, le bon pain, mais pas au point d'avoir un gros choc de culturel.
On a tous vécu ça différemment notre tour. C'est que le coup du sport, je pense que c'est important à mentionner parce que je pense que notre corps s'habitue à faire du sport tous les jours et c'est une question, enfin, je suis pas trop médecin, mais on a des hormones, des choses comme ça et je pense que si on arrête du jour au lendemain de faire du vélo, directement notre corps il va être en manque. Donc on a tous continué à bouger et on a fait tous les trois des choses différentes, c'est-à-dire que derrière, il fallait qu'on continue de bouger, sinon si on arrivait directement chez nous, du jour au lendemain, on passait de vélo tous les jours à une vie un peu excitante, de pas savoir où on allait dormir, de découvrir tout le temps, ah, je rentre chez moi, je vis sur mon canapé. Là, il y aurait eu un vrai choc, mais c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, donc on est passé 2 jours à Grenoble. Après, moi, j'ai refait du vélo. Donc, je suis allé du Paris au Mont-Saint-Michel. Donc, en fait, j'ai enchaîné derrière. Et puis, une fois au Mont-Saint-Michel, voilà, j'ai retrouvé la famille. Et puis, derrière, j'ai retravaillé. Donc, vraiment, pas de pause. Pour faire amorcer un peu une pente douce, une descente douce vers la vie sédentaire, quoi.
Bah moi je partage totalement ce qui a été dit jusque-là. Moi j'ai continué à faire du sport parce que sinon j'arrivais pas à aller me coucher le soir quoi. Enfin, en fait on a trop d'énergie quand on revient d'un voyage comme ça honnêtement. Donc bah j'allais nager quasi tous les jours. Et puis après moi en rentrant j'ai fait un truc un peu différent mais je suis allé dans pas mal de. Enfin j'étais voir des amis un peu dans pas mal de villes. J'étais à Lyon, Bruxelles, tout ça. Donc enfin, j'ai continué à bouger un peu pendant 1 ou 2 semaines. L'idée, c'est de continuer à, enfin, c'est d'amorcer progressivement la descente, de pas se laisser juste dire submerger par. Ok, bah maintenant il n'y a plus rien et c'est vide. De faire des trucs qui nous font plaisir, voir des amis, voir la famille, faire du sport. Tout ça, je pense, c'est important pour pas avoir le petit coup de déprime de fin de voyage, quoi.
Ouais, vous teniez plus en place, quoi. Il fallait bouger. Non, mais je comprends. Et puis après, bah, vous avez rythme qui a repris, je suppose, de revenir à Grenoble, de recommencer les études. Enfin, je pense que vous n'avez pas eu le temps de vous ennuyer.
Ouais, c'est ça. C'est allé très très vite, ouais. C'est vrai.
Juste un point matériel, parce qu'on n'en a pas trop parlé. On a parlé des vélos, mais pas du reste. Est-ce qu'il y a un objet qui vous paraît indispensable en voyage à vélo?
Je vais quand même dire que vous voyagez à vélo, c'est vraiment facile, il faut pas grand-chose, quoi. Et là, on parle, depuis le début, on dit qu'on a fait une organisation de 1 an. Voilà. Franchement, n'importe qui fait un tour dans le magasin d'équipement proche de chez lui, on prend une tente et de quoi rouler, et puis on peut partir, quoi. Enfin, je voulais vraiment mettre un mot là-dessus, c'est super simple, quoi. Faut vraiment pas se prendre la tête. Je voulais vraiment dire ça. Sinon, au niveau outils, ce qui nous a servi beaucoup, si je parle d'outils, c'est un multi-tool. En fait, on se rend compte que tout rentre dans quelque chose qui fait la taille d'une paume de main, on a tout ce qu'il faut, quoi.
Ouais. Et puis nous après c'est vraiment là c'est le t-shirt Mérinos, pour moi c'était une découverte, je connaissais pas, et bah c'est vraiment génial. Et puis du coup grand pouce pour le t-shirt Mérinos, parce que ça pue pas en fin de journée, tu peux le rincer à l'eau sans mettre de savon, ça pue pas toujours, et puis même au bout de 5 jours ça pue pas, du coup c'est assez
Ah, le Mérinos, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est vraiment incroyable. Et moi, bon, je vais pas du tout être original, mais il y a un truc qui est obligatoire, c'est une paire de lunettes de soleil. On peut pas rouler, c'est impossible.
Ouais, je
Ouais.
pense, surtout dans les pays où vous avez roulé en plein été, je pense que
Clairement.
c'est
Et
pas
puis je
mal, ouais.
rajouterai quelques jeux de chambre à air si vous roulez avec Odin aussi.
Oui, j'ai vu que tu avais beaucoup crevé.
Ouais, j'étais crevé 6 ou 7 fois, quoi. Je pense que la pire fois, du coup, c'était le jour le plus chaud du voyage, quoi. Il faisait 45 degrés à l'ombre. En Croatie, puis là on se retrouve à voilà, crevaison sur crevaison et à changer un pneu sous 45 degrés, et puis je finis par faire 5 km avec un pneu cassé, une hernie, et du coup je roule avec du Chatterton et un Surflex sur ma roue pour réussir à atteindre la prochaine
C'était
ville,
quand même une belle réparation, hein. Franchement, c'était propre.
Une fois je change tous mes pneus et puis j'ai les mains vraiment sales, et on était sur une ville balnéaire en Croatie, puis je suis allé voir le crew là, l'estaf d'un gros yacht je faisais 25 mètres, et puis j'ai demandé, puis à peine j'arrive il me propose de me rincer les mains au jet d'eau, il m'amène du savon, donc c'était vraiment l'opposition quoi, nous voyage à vélo avec rien, puis on va voir le yacht d'à côté qui fait 25 mètres, qui sont complètement enfin dans le je veux dire le surconfort quoi, mais c'est assez marrant.
Du coup, on a pu suivre toutes vos aventures sur vos comptes Facebook, Instagram, Polarstep, YouTube et même sur votre site internet Les Petits Princes à Vélo. Je trouve que vous avez fait un travail quand même énorme. Je pense que ça a dû vous prendre un temps incroyable, même si vous y étiez trois. En quoi pour vous c'est important de partager votre voyage via les blogs, les réseaux sociaux et aussi par vidéo?
Ça faisait partie intégrante du projet. C'était dans le début, dans le projet qu'on a monté, il y avait cette part de communication-là, comme on dit, de extra personnel. Donc on avait envie de partager de ça pour parler de, comme avec les enfants en fait, hein, c'est les mêmes idées, parler d'Europe, parler de mobilité, parler de vélo. Et il y avait une motivation aussi personnelle, en tout cas dans la réalisation de vidéos, on se crée nos souvenirs, et puis on aimait ça, on aime bien la prise de vue, on aime bien faire les montages.
Je pense qu'on avait aussi envie, mais avec le confinement, avec ce qu'on a pu tous vivre pendant ces périodes-là, on avait peut-être envie aussi de faire rêver un peu les gens, de leur montrer des choses qui nous faisaient rêver et ce qui nous avait ébahis, quoi. On était un peu comme des gosses, hein, devant, enfin, de voir tout ça, et je pense qu'on avait envie que les autres personnes, que les autres gens puissent ressentir un peu la même chose, une partie de ce truc-là, de l'émerveillement d'être devant des paysages de fou, quoi.
En tout cas, c'était le cas. Pour avoir regardé vos vlogs, c'était très chouette cet été. Donc, ils étaient très bien filmés. Et même, j'ajouterais, je veux pas que ça vous vexe, mais de mieux en mieux filmés. C'est vrai que, enfin, c'est incroyable de voir vous avancer à vélo et aussi les vidéos sont de meilleure qualité, kilomètre après kilomètre. Donc, c'est très chouette à voir, en tout cas pour les spectateurs.
On savait comment filmer efficacement ce qu'on avait besoin. Au début, on filmait peut-être trop. On a pris de l'aisance devant la caméra, on a pris de l'aisance au montage, et on a travaillé au fur et à mesure pour essayer les premiers. Il nous manquait des éléments pour raconter un peu l'histoire. Du coup, au fur et à mesure, on a gagné pour essayer de faire mieux.
Et du coup, vous filmiez, vous aviez pris quoi comme matériel pour filmer?
Sur la partie matérielle, on avait une GoPro, l'Aero 8. On avait aussi un réflexe avec deux objectifs, enfin trois, mais il n'y en a que deux qui ont servi. Le drone, donc le Mavic Mini 2, le réflexe c'est un Canon 80D, et les objectifs un Sigma 18-35 et un Canon 18-135, si des gens sont intéressés par les références. Et donc voilà, le drone Mavic Mini 2, et puis PC portable et disque dur externe SSD pour pouvoir monter facilement.
C'était un gros pari qu'on s'est fixé là, c'est-à-dire on se rend compte que c'est quand même un quart de nos affaires qui servaient à ça. Bon, j'avais une sacoche entière en fait de matériel audiovisuel, Sinclair en avait une aussi, et c'est un quart et c'est d'autres un tiers du poids quoi, parce que mine de rien, au niveau batterie, c'est super lourd. Et on s'est dit, c'est vraiment un défi un peu, on prend tout ça, ça sert à rien, plein de gens puis partir sans, et bah, il faut, tout le monde fait sa façon de faire quoi. Mais nous, on avait vraiment, ça faisait partie du projet en fait, l'envie de réaliser des images, c'était vraiment une des convictions et de nos envies. Donc on a fait ce pari-là de partir avec tout ça pour filmer pendant le voyage.
Ouais, c'était un beau pari parce que, enfin, je suppose qu'il y a eu des étapes où vous deviez être très fatigué et vous aviez pas forcément envie de de faire le montage des vidéos, je pense que c'est... Enfin, juste pour faire un podcast, je sais combien de temps ça me prend. Et donc, pour faire des vidéos, je me doute que ça doit pas être facile de s'y mettre. Peut-être pas tous les jours, mais au moins un jour sur deux, je suppose.
Et c'est que c'est un petit... Il y a les pour et les contre, c'est vrai que c'était un petit stress, l'envie de tenir un vlog, parce que du coup, il faut aussi regarder les délais. Et tous les jours, il faut se dire, bon, bah, faut que je passe au moins que je dérush ou que j'avance un peu sur ce que j'ai filmé aujourd'hui, ce que j'ai filmé la veille, pour pas se faire submerger, parce que si plus on repousse, plus il y a du travail qui arrive. Et donc, il fallait faire un peu tous les jours pour essayer de tenir un rythme de vidéo.
Juste une dernière question pour conclure le podcast, si vous voulez bien, épisode. Peut-être que vous la connaissez, mais voilà, c'est une question que je pose à la fin de chaque épisode. Quel conseil pourriez-vous donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo?
Pour moi, je pense vraiment le plus dur, bah, c'est de partir. Et alors, du coup, après, une fois qu'on a décidé qu'on partait, ça roule. Et puis, faut pas trop non plus se prendre la tête. Si on part en France, il y a des magasins un peu partout. Du coup, si on se rend compte qu'il nous manque du matériel ou autre chose, on peut toujours trouver une solution.
Bah, moi je suis entièrement d'accord hein, c'est le partir c'est le meilleur conseil en fait c'est un peu non mais c'est un peu bête parce que les gens vont s'attendre à des conseils peut-être techniques ou comment préparer tout ça mais en fait le meilleur conseil qu'on puisse donner c'est faire dans tous les domaines je pense hein, ça marche mais c'est faire parce qu'il y a que ça qui va permettre de se rendre compte on pourrait passer 15 ans je pense à essayer de préparer le voyage parfait on aurait quand même des galères en fait. Il y a rien qui, enfin, on peut pas tout prévoir et donc du coup juste partir, c'est, il y a que ça à faire.
Ouais, je pense que c'est un très bon conseil et que du coup votre épisode a tout à fait illustré ça parce que vous aviez développé tout un projet, fait un itinéraire en Europe et puis finalement vous avez fait un autre itinéraire et puis je pense que vous êtes quand même super content de votre voyage. Donc.
Ouais, on est super content. On garde des super souvenirs en tout cas.
Très heureux.
Pour ma part, moi, j'étais très contente de pouvoir discuter avec vous sur votre voyage à travers l'Europe. Ça faisait un petit moment que je vous suivais maintenant, depuis mars ou avril cette année. Donc, c'était très chouette de pouvoir vous poser plein de questions. Je vous remercie à tous les trois, en tout cas, pour votre témoignage. Et puis, je vous souhaite plein de belles aventures à vélo.
Bah, merci à vous pour l'accueil aussi, c'était génial.
Merci beaucoup, c'était top.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour poursuivre l'aventure, vous pouvez retrouver Cyclotopo sur Instagram et sur Facebook. Et sinon, quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau portrait de voyageurs ou de voyageuses à vélo. Je vous souhaite une excellente semaine. Ciao !